Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café. Café. www.bondyblogcentre.fr.
Allô ?
Oui, bonjour, Daniel Begdad de Radio
Campus. Bonjour.
De Radio Campus Orléans. Vous êtes bien allé ?
Vous allez bien ?
Oui, et vous ?
Oui, c'est moi.
D'accord.
Oui, ça va.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre. Ce numéro sera consacré à la caricature et nous avons pour cela le plaisir, le bonheur, l'immense joie d'accueillir Nadia Chiari pour une interview par téléphone. Nadia Chiari qui est caricaturiste, elle fait partie aussi du mouvement Cartooning for Peace, elle a eu le prix Couille au cul. En fait, c'est une caricaturiste qui a commencé en 2011 lors de la première révolution tunisienne, souvenez-vous, c'était le printemps de Jasmin, le printemps arabe des révolutions qui commençaient à se propager dans tout le nord de l'Afrique, en Égypte, en Syrie, au Maroc, en Algérie. Elle était là dès 2011 pour dénoncer justement la dictature de l'ancien dictateur Ben Ali et elle a poursuivi à commenter l'actualité tunisienne et c'est ce dont il s'agit dans ce livre qu'elle vient de sortir, Willis from Tunis, 10 ans et toujours vivant. Je souhaiterais qu'on revienne sur donc votre dernier ouvrage, 10 ans et toujours vivant, Willis from Tunis, une rétrospective qui revient donc sur la naissance de Willis il y a 10 ans à l'occasion du printemps tunisien qui s'est propagé d'ailleurs en Algérie, Mauritanie, Maroc, Égypte, Syrie, Bahreïn, Libye, avec des mouvements similaires et peut-être même plus récemment en France, si on faisait un parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes, dans la mesure où c'est un mouvement de citoyens non violents qui souhaitent un changement dans la société. Je voudrais qu'on revienne donc sur ce dernier ouvrage et que vous m'expliquiez comment est-ce que votre livre a été accueilli par les lecteurs tunisiens et tunisiennes.
Le livre, il est plutôt bien accueilli. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui l'ont acheté. Bon, malheureusement, dans ces circonstances, j'ai pas pu faire de rencontres ou de séances de dédicaces ou autres. Donc, c'est vraiment dommage parce que j'aurais eu vraiment l'impact sur les personnes en live. Donc là, c'est des messages sur les réseaux sociaux, par mail. Et il y a un excellent accueil. C'est surtout le mot mémoire qui revient le plus souvent. Les gens me disent que voilà, c'est utile pour la mémoire de notre pays d'avoir rassemblé tous ces dessins. Il y a des textes aussi. Donc chaque année, j'ai des textes, des articles aussi que j'ai publiés dans Ciné Mensuel. Mmh. Et j'ai choisi des dessins pour chaque année qui étaient importants, on va dire, dans l'enchaînement des événements qui nous ont menés jusqu'à la situation actuelle. Et l'histoire, la mémoire, elle est importante de ces 10 dernières années parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et on a vécu tellement de choses qu'on n'arrive plus à prendre du recul et on n'arrive plus à relativiser un peu tout ça et à comprendre tous ces événements-là. Donc il y a un bon accueil, en tout cas, de la part des fans et des personnes même qui ne connaissaient pas mon travail parce que j'ai essayé de faire en sorte que tous les dessins soient compris par tout le monde, que ce soit tunisien, mais aussi personnes qui ne connaissent pas la situation politique, sociale, etc. en Tunisie.
Mmh. C'est vrai que c'est un peu comme un roman graphique qui explique pour le lecteur ou la lectrice, comme moi par exemple, qui ne suis pas tunisien, qui ne connaît pas très bien l'histoire de ce pays, qui permet de recontextualiser et comprendre justement les nombreux problèmes qui incombent au peuple tunisien avec un nombre de présidents assez faramineux, un nombre de candidats aussi pour les élections proches de la centaine. On apprend beaucoup de choses sur ce pays et on apprend aussi qu'il y a souvent des sortes, des rivalités entre un conservatisme ancré dans les gènes du pays et en même temps une jeunesse très nombreuse qui veut du changement, chasser le pouvoir, qui veut du travail. Cette jeunesse, alors en préparant cette émission, j'ai appris que encore le 30 novembre 2020, Omar, 17 ans, s'est immolé par le feu, que les suicides par immolation ont triplé dans la population, que beaucoup de jeunes partent. Vous en parlez également d'ailleurs dans Willis from Tunis. Ces jeunes, vous les croisez certainement. Alors vous êtes professeur d'art plastique, c'est ça ?
Exact, je suis prof d'art plastique dans un collège.
Ah oui, d'accord, auprès de collégiens que vous croisez. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes, quand vous parlez avec eux ?
Ils se sentent pas entendus par le pouvoir depuis 10 ans. Il y a une béance énorme entre ce qui se passe au niveau du pouvoir, des élections, etc., et la réalité de cette jeunesse qui... Bien sûr, il y a en moyenne 100 immolations par le feu par an, mais ça, c'est uniquement les suicides par immolation, mais il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup de suicides en Tunisie de la part des jeunes qui sont désespérés parce que leur situation n'évolue pas, ne change pas. Et tous, quand j'en discute avec eux, alors moi, je vois des jeunes, que ce soit dans des collèges, mais aussi à l'extérieur, mais aussi dans des centres de détention pour mineurs, je fais des ateliers. Leur rêve, c'est quitter le pays parce qu'ils savent que ici, ben, ils n'obtiendront rien. En 2011, juste après la révolution de janvier, j'étais à l'époque enseignante aux Beaux-Arts de Tunis. Et avant 2011, les étudiants étaient complètement résignés. Il y avait des mouvements de contestation, mais ils étaient bien sûr réprimés. Après la révolution, en 2011, j'ai vu dans le regard des jeunes et dans leur manière de se comporter, qu'ils sentaient qu'ils détenaient leur avenir dans leurs mains et qu'ils voulaient, voilà, ils se sont dit maintenant, ça nous appartient, c'est à nous de faire les choses. Mais les politiques et les dizaines de changements de gouvernement, les multitudes de chefs de gouvernement, rien que cette année, en 2020, on a eu 3 chefs de gouvernement. Donc là, aujourd'hui, il y a le ministre des Affaires local et de l'environnement qui vient de être limogé pour une affaire de corruption. Enfin, les scandales ne cessent pas et les jeunes essayent de se mobiliser, mais la situation est tellement difficile au niveau social et économique les politiques ont tué l'espoir à petit feu depuis 10 ans. Donc, c'est normal qu'ils soient désespérés. Je reçois des messages de jeunes régulièrement qui aimeraient bien, qu'il y ait une solidarité, que ça bouge, mais aujourd'hui, c'est très compliqué de se projeter dans l'avenir en Tunisie pour un jeune.
Mmh. Et vous, alors, qu'est-ce que vous leur dites quand ils vous disent tout cela ? Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Voilà, j'essaye de leur dire que bon, il faut être solidaire, il ne faut pas se résigner, il ne faut pas baisser les bras, qu'on peut réussir tous ensemble, il faut que... Voilà, qu'on serre les coudes, parce que dans les situations difficiles, il faut serrer les coudes. Alors, en 2011, on avait un ennemi commun, on avait la kleptocratie de Ben Ali, de sa belle famille, donc on était unis. Aujourd'hui, on est divisés, non seulement à cause de ce qui se passe politiquement, mais au niveau social, c'est très compliqué. Donc, il y a une grogne qui est sociale, qui est claire, qui est évidente. Ça pète un peu partout, à Tozeur, rien que ce week-end. Enfin, et voir tous ces scandales au niveau politique et de voir que, je sais pas, là, pendant la campagne électorale de l'année dernière, les deux partis qui ont la majorité au Parlement, Naf et Khaltounes, ont été épinglés par la Cour des comptes pour financement illégal de leur campagne. Et là, ça passe. Je veux dire, c'est sans arrêt tout ça. Et nous, on observe ça. Alors, j'aimerais bien donner de l'espoir à la jeunesse, mais c'est difficile de trouver des arguments.
D'accord. Si on revient à votre dernier ouvrage, donc qui recommence donc il y a 10 ans, pendant le début de la révolution à Tunis. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez du rôle qu'a joué la France pendant la révolution tunisienne ?
Michel Alliot-Marie.
Par exemple. Alors, pour les auditeurs auditrices, je recontextualise. Hein, donc, il y avait la ministre Michel Alliot-Marie qui avait expliqué qu'elle pouvait soutenir la Tunisie en exportant le savoir-faire français. Il s'agissait en fait de grenades de désencerclement pour voilà soutenir le dictateur en place et donc soutenir la Tunisie, le pouvoir tunisien, grâce au savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre.
En matière de sécurité, oui, oui. Oui, c'était très sympa. Mais on l'a pas oublié, ça.
Oui, j'imagine. Un rôle ambigu, quand même. Alors, sans parler de sa visite, en plus, sur le sol tunisien, pendant justement la révolution. Hein.
Oui, oui, parce qu'il y avait du business avec ses parents et un homme d'affaires très connu ici. Donc, oui, oui, c'est. Pendant les 23 ans de règne de Ben Ali, on se sentait très, très seul, hein, pas du tout soutenu par qui que ce soit. Hein, donc. C'était très compliqué de pouvoir faire de la dissidence et de trouver des appuis où que ce soit. Donc, et bon, maintenant, je pense que bon, c'est à la population, c'est à nous, c'est aux citoyens de se bouger pour pouvoir faire avancer les choses, de se mettre au boulot et de ne pas se laisser faire, quoi, de compter sur qui que ce soit, ici, localement ou à l'étranger.
C'est dommage parce qu'il y a quand même des liens forts qui unissent ces deux pays, la France et la Tunisie. Vous êtes d'ailleurs franco-tunisienne.
Oui, oui. D'ailleurs, quand je regarde l'actu politique dans mes deux pays, je suis navrée. Mais bon. oui, non, mais effectivement, bon, là, de toute façon, on a besoin d'aide extérieure. Ça, c'est une évidence, pas seulement la France, mais on a besoin d'investissements étrangers. On a besoin d'aide, pas forcément d'emprunt ou de dette. Mais oui, si on a vraiment besoin d'aide parce que l'économie, elle est dans un gouffre sans nom depuis des années. Et puis, il n'y a pas vraiment de programme économique clair de la part du gouvernement. Donc oui, l'aide, on en a besoin, c'est clair. Malheureusement, après, il y a des polémiques. Là, dernièrement, à l'Assemblée, il y a eu tout un mouvement de boycott de la France qui venait de la part de partis extrémistes qui étaient relayés par la population. Mais bon, ça, le problème, c'est de gérer le passé du protectorat, justement la France lors du règne de Ben Ali. Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs qui ont été faites et c'est compliqué de trouver la paix à ce niveau-là, quoi, de se réconcilier. Il va falloir du temps.
Puisque vous suivez l'actualité française, hein, il y a eu l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine avec la décapitation d'un professeur de collège. Il y a un député dans votre pays, Rachid Kiari, qui a approuvé la décapitation de Samuel Paty sans grande réaction de la classe politique. Qu'en pensez-vous ?
Déjà, on partage le même nom de famille, c'est désolant.
Oui.
Mais oui, non, c'était pas le seul à le dire. Hein. Beaucoup d'autres députés approuvaient aussi. C'est bon, on a des terroristes à l'Assemblée, voilà. Pour résumer, quoi. C'est gravissime, c'est gravissime. Je peux comprendre qu'on ne puisse pas, voilà, accepter, les caricatures, etc. Qu'on en soit offensé. Mais de là à saluer l'acte d'un terroriste au sein même de notre assemblée et surtout d'être suivi aussi. Il a été élu quand même. Hein. Il y a des gens qui ont voté pour lui. Il n'est pas arrivé comme ça tout seul et les autres aussi. Donc c'est assez compliqué. Hein. C'est un sujet super tendu. Mais bon, là on est encore dans cette instrumentalisation. Hein. Il y a énormément d'instrumentalisation autour de ces dessins-là et aussi autour de toute cette histoire de liberté, d'expression, etc. D'ailleurs, nous, nos problèmes sont économiques. Moi, je vois le chômage, je vois la misère, je vois des femmes qui travaillent pour 3 sous et qui sont en plus en leur crache dessus. Ces députés-là, ils s'attaquent aux plus faibles. Et moi, je trouve pas ça très courageux, quoi. Donc, en tout cas, au niveau de la population, il y a beaucoup de gens aussi qui une grande majorité de personnes qui trouvent ces propos affreux, horribles. Je suis pas toute seule et ceux qui ont voté pour eux, c'est quand même une frange de la population qui est une minorité, hein. Il y a des extrémistes de partout, hein, en France aussi, hein.
Oui, bien sûr, oui, oui. Non, mais c'est malheureux parce que si on regarde dans l'actualité, bah, pas plus tard qu'hier, il y a un jeune berger dans le sud du pays qui s'est fait décapiter. Voilà.
Oui, et lui, il n'a pas du tout parlé des caricatures du prophète. Hein.
Bah, y a rien
il n'en a pas dessiné non plus. Hein.
C'est un mal qui vous touche profondément, l'extrémisme religieux dans votre pays.
Et malheureusement, ils ont fait couler beaucoup, beaucoup de sang. Ce n'est pas le premier berger à être décapité. Il y en a eu un autre il y a quelques années aussi qui a été décapité et à qui ils ont demandé à son frère de porter la tête jusqu'à la famille. C'est quand même, on est dans un film d'horreur. On est dans un film d'horreur. Et on ne peut pas s'habituer à ce genre de choses-là. Ce n'est pas possible. Donc ça nous fait mal à chaque fois. Ça nous fait... Moi, je le vois, quoi. C'est horrible, horrible de voir ça, et surtout de ne pas voir que ça évolue, que ces gens-là courent toujours, et que rien, enfin, je ne dis pas que rien n'est fait, il y a des arrestations régulières hein, de cellules terroristes. Mais nous, notre problème aussi, c'est nos frontières avec la Libye, qui sont plutôt poreuses, quoi. Donc, et puis, cette ingérence un peu de la Turquie, entre la Tunisie et la Libye, donc ça nous dépasse complètement. On observe ça d'une manière, enfin, on est ahuri et on espère juste que ça va s'arrêter, qu'on va pouvoir vivre tranquille et que ça s'arrête, quoi. Cette horreur-là s'arrête, que ça ne reste pas impuni.
Et alors, que pensez-vous de la situation française récemment, suite à ces attentats, il y a eu un grand débat sur le séparatisme, sur on est revenu à la laïcité, au principe de la laïcité qu'il faut affirmer dans les écoles, partout. Une sorte de crispation en même temps du discours politique autour de ces termes un peu galvaudé, j'ai envie de dire, un peu bateau de laïcité, dans la mesure où, en France, nous n'avons pas de personnes qui incarnent le pouvoir avec cette dimension religieuse, comme ça peut être le cas dans votre pays, hein, où des extrémistes font partie du pouvoir. Comment vous la voyez, la situation française, qui est moins menacée, j'allais dire, par l'intrusion du religieux dans le politique, tout de même, quand même?
Ah, complètement, non, c'est complètement différent. Hein. Nous, malheureusement, les politiques, les conservateurs ont tout fait pour associer le mot laïcité à le mot athéisme. Donc, la laïcité égale athée. Laïcité. Donc, dans la tête des gens, c'est ça. Hein. Et j'ai entendu de tout comme phrase à ce niveau-là. En France, ça n'a absolument rien à voir, mais il suffit juste de revenir à la loi. À la Constitution européenne, aux lois en France, il y a quand même des textes clairs à ce niveau-là, au niveau de la liberté d'expression, de la laïcité. Et s'il y a un problème, ça se passe devant les tribunaux. On règle pas ça, par la violence et surtout par la division au sein même d'une même famille, quoi. Donc, c'est des polémiques, à mon avis, qui sont complètement inutiles et stériles. Ils servent à rien quand on voit sur les chaînes d'infos en continu toutes ces déblatérations qui servent à rien, des soi-disant experts. C'est affreux de voir cette division, de diviser les gens sans arrêt sur ces questions-là d'ordre moral ou d'ordre idéologique, alors que bon, les lois existent déjà. Il suffit juste de les appliquer, point barre.
Est-ce que ça ne serait pas un peu le moyen pour la classe politique française, comme d'ailleurs la classe politique tunisienne, d'agiter le spectre du terrorisme pour, comme ça on ne parle pas du reste, on ne parle pas du chômage, on ne parle pas des mouvements sociaux
Et malheureusement, c'est ça. J'ai fait un dessin récemment à ce sujet-là, quoi. C'est tellement la cata à tous les niveaux. On vit vraiment une crise majeure à tous les niveaux, financiers, économiques, sociales, sanitaires. Et on vient nous parler des mères célibataires qui sont une infamie pour la population tunisienne. On parle de questions d'ordre moral. Et c'est la même chose depuis 10 ans. Donc, on détourne l'attention de l'opinion publique, des vrais problèmes. Et on désigne des boucs émissaires régulièrement, qui sont toujours les plus faibles, évidemment. Et puis, ou alors, c'est les journalistes, les médias, les artistes, les intellectuels, les universitaires. C'est la même chose, nous, depuis 10 ans. Et ça, malheureusement, les gens tombent dans le panneau régulièrement. Donc, il y a des gens qui sortent dans la rue et qui réclament la justice. Mais c'est dans ce contexte sanitaire, c'est plutôt compliqué de se rassembler, d'exiger des droits. Quoi. Donc,
Mais il reste les réseaux sociaux que vous avez fréquentés dès le début de la Révolution et vous avez d'ailleurs comment dire, marqué de votre patte une forme de nouvelle écriture multimédia dans la mesure où via ces réseaux sociaux, via vos dessins, vous avez contribué aussi à, j'imagine, il y avait de la réflexion, il y avait de l'information. Expliquez-nous comment ça se passait, le cyberactivisme il y a 10 ans. En Tunisie, à l'époque de la Révolution.
Les réseaux sociaux sont un excellent, étaient déjà un excellent moyen de communication avant même 2011. Après, on communiquait autour de plein d'autres sujets. Mais il y a près de 5 millions de comptes Facebook en Tunisie. On est plus de 11 millions. Donc, c'est quand même pas mal quoi, pour pouvoir communiquer. C'est le meilleur outil qui soit. On est plus au courant de ce qui se passe à travers les réseaux sociaux que dans les journaux quoi. L'info elle vient toujours en retard hein, dans les médias, alors que sur les réseaux on est beaucoup plus au courant, on sait quand quelqu'un se fait arrêter ou quand quelqu'un a des problèmes, on est au courant très très vite. Et pendant ces 10 ans, ça nous a permis de nous mobiliser, ça nous a permis de prendre rendez-vous ou même pour manifester, pour faire des comités de soutien, pour libérer des prisonniers. On a essayé d'utiliser les réseaux sociaux d'une manière constructive, quoi, pas uniquement dans des campagnes de haine, parce que ça existe aussi, hein, malheureusement. Mais on les a utilisés pour diffuser un maximum l'information, et ça marche. Ça marche, l'information. Après, il faut toujours essayer de déceler le vrai du faux, parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake. Et ça, il faut apprendre à sourcer les informations. Donc, bon, c'est un peu le bazar, hein. Mais en tout cas, moi, dans la manière dont je l'ai fait, c'est vraiment pour lancer des campagnes de sensibilisation, essayer de mobiliser un maximum autour de certaines questions, venir en aide à certaines personnes aussi. Donc, il y a beaucoup de bons côtés aussi dans les réseaux sociaux. Il faut les utiliser, à mon avis, dans ce sens-là, pour communiquer un maximum et se mobiliser.
Et ça fonctionne bien ? Il n'y a pas trop de surveillance ou de fermeture de compte qui serait dissident ?
Alors il y a des fermetures de comptes hein, régulièrement, il y a des signalements de profils et tout, mais comparé à avant 2011, ça n'a rien à voir. On s'exprime, quoi. On s'exprime vraiment librement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème suite à cette expression-là, mais en tout cas, elle existe bel et bien cette expression.
Tant mieux. Et j'imagine que la jeunesse y est présente.
La moitié de la population a moins de 30 ans, donc oui, la jeunesse, elle est super présente sur les réseaux, et heureusement. Moi, je me tiens informée comme ça. Malheureusement, cette année, vu le contexte sanitaire, moi, je préfère être dans la rue, je préfère être en contact avec les gens, discuter avec eux, sentir, palper l'ambiance, et parler, discuter, débattre dans les cafés de partout. Bon, cette année, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Et puis moi, sur mes comptes, je veux dire, moi, je n'utilise pas mon profil, soit sur Facebook ou autre, pour raconter ma vie. Ma vie, elle reste privée. Mais ce qui m'intéresse, c'est j'accepte toutes sortes de personnes sur mes profils, tous les bords politiques confondus, parce que je veux entendre toutes les opinions. Je veux pas être dans un cercle clos où on pense tous pareil, on est tous d'accord les uns avec les autres, et on se caresse dans le sens du poil. Non, au contraire, moi, je veux voir une même actualité, comment elle est interprétée, ou en tout cas, comment elle est reçue par que ce soit la droite, la gauche, les islamistes ou autres. Ça m'intéresse de voir comment naissent les différentes réflexions et comment on reçoit une même information.
D'accord, vous avez une information sur CNews, vous allez voir ce qu'en dit Spoutnik, par exemple.
Ouf.
c'est un peu l'idée. Non, mais voilà, vous croisez les points de vue.
J'essaie de comprendre un peu comment ça, parce que bon, moi, ce qui est intéressant, c'est pas s'enfermer et puis prendre du recul, quoi, pour voir un peu comme les différentes opinions et puis les différents arguments aussi, ça m'intéresse. Parce que j'ai envie d'évoluer, de réfléchir, j'ai envie de comprendre aussi. C'est pas parce que je vais tolérer une idée qui n'est pas la mienne que je vais la cautionner, mais j'ai envie de l'entendre, j'ai envie de savoir. Parce qu'on ne cesse pas de dresser des murs entre nous, et moi je suis pour le dialogue et pour casser ces murs-là. Je suis pour éviter ce manichéisme où voilà, il y a les gentils, il y a les méchants. C'est pas aussi simple que ça.
Oui, c'est vrai, quand on lit votre ouvrage, il est souvent dubitatif hein, quand même, Willis from Tunis. il se trouve là, il sait plus quoi en penser. Qu'est-ce que j'ai là? On est diplômé, on est éduqué, on croit en nos rêves, on n'a pas peur, on est motivé, on est nombreux et on n'a rien à perdre. Voilà, ça, c'est cette raison d'espérer. Il y a de l'espoir aussi d'ailleurs, souvent, un petit peu quand même.
Moi, j'essaie de faire naître l'espoir en moi, en tout cas. En fait, je me focalise sur les gens qui sont constructifs, qui veulent faire avancer le pays. Moi, les seuls qui m'ont donné de l'espoir et qui me donnent encore de l'espoir aujourd'hui sont les gens qui font partie de la société civile et surtout les associations qui font un boulot extraordinaire, qui font le boulot d'État. Tous ces gens qui travaillent bénévolement, qui s'investissent, qui sont sur le terrain, qui vont en aide aux nécessiteux et qui, des associations, que ce soit environnementales ou sociales ou autres. Mais en tout cas, qui sont là et bien là, et beaucoup de jeunes qui s'investissent réellement, des étudiants et tout, ça me donne l'espoir. Et ça bouge et il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux, c'est tout.
Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de solidarité culturelle quand on s'informe sur la Tunisie, notamment la situation des jeunes. On se dit, bah, s'ils sont au chômage, comment ça se passe? Beaucoup de petits boulots et de soutien de la famille en fait aussi qui les nourrit. Donc on imagine des familles qui se retrouvent avec des jeunes dans les pattes, entre guillemets, parce que peu d'avenir pour eux, mais qui continuent de les soutenir. Ce que vous me disiez là, par rapport au travail des associations, ça me rappelle un autre dessin. Ce soir, notre barricade est beaucoup plus élaborée. Donc il y a un stand de boissons, il y a un tas de pierres, table et chaises pour le coin Chocba, Rami Domino, espace fumeur. Alors qu'est-ce que c'est que le stand Lablabi?
Les blabis, c'est un plat d'hiver à base de pois chiches. C'est un plat des pois chiches et du pain rassis. C'est une soupe qui est délicieuse. Bon, alors il y a beaucoup d'harissa. Et quand on a du pognon, on peut rajouter du thon et un œuf dedans. C'est délicieux et ça remplit et ça tient chaud. Donc, c'est le plat d'hiver par excellence.
D'accord. Et un espace enfant et donc une flèche pour aller vers un cours de salsa. On imagine justement le travail que les associations peuvent faire dans le cadre, justement, de l'éducation des enfants et puis aussi de la culture. Comment va le monde culturel tunisien en ces périodes un peu troubles?
Malheureusement, c'est comme un peu partout. Les artistes, on a tous beaucoup de mal cette année. Moi, par exemple, bon, depuis le mois de mars, j'ai plus de boulot. Moi, je suis prof à mi-temps dans un collège. Vous imaginez que c'est pas génial. Mais ça me permet aussi de pouvoir faire mon travail de dessinatrice de presse. Mais il y a plus de festivals, il y a plus de dédicaces, il y a plus d'expos, il y a plus de rencontres, il y a plus rien. Et la plupart de mes collègues artistes dans différentes disciplines artistiques, c'est le même cas, quoi, que ce soit dans le théâtre, dans la musique. Donc c'est très difficile et on espère vraiment qu'on va sortir petit à petit de cette crise-là pour pouvoir reprendre nos vies. Parce qu'on a bien remarqué que la culture, c'est indispensable en temps de confinement. Si les gens étaient occupés à lire, à jouer à des jeux vidéo, à lire des bandes dessinées, à écouter de la musique, à regarder des films, la culture, elle est indispensable à nos vies. Et si ça disparaît, ça va être compliqué. Enfin, on est tous obligés d'avoir un job à côté pour pouvoir subvenir à nos besoins. Même moi, mes copains dessinateurs de presse en Tunisie, sont dans le même cas. Ils travaillent tous à côté. Donc, on compte pas non plus trop sur le ministère de la Culture. De toute façon, on n'a plus de ministre de la Culture. C'est le ministre du Tourisme qui a pris le relais. Donc là aussi c'est les associations et des ONG aussi qui viennent en aide aux artistes avec des subventions, avec des résidences, pour pouvoir avancer.
Vous avez un projet en cours?
Voilà, déjà la sortie du bouquin là, c'est déjà pas mal. Mais j'ai envie de m'investir dans plein d'autres choses. D'habitude, je fais des ateliers. Là, par exemple, j'avais fait des ateliers avec des associations. Je fais des ateliers de sensibilisation autour de plein de questions différentes. J'en avais fait autour des violences faites aux enfants, parce qu'on a des lois qui ont été en 2018 sur les violences contre les enfants. Donc j'ai fait une campagne, je suis allée faire des ateliers dans les zones rurales, partout, pour que les enfants connaissent leurs droits. On devait faire là à la rentrée, malheureusement c'est abandonné, mais je devais faire des ateliers dans les centres de détention pour mineurs pour faire un manuel pour qu'ils connaissent aussi leurs droits, pour qu'ils apprennent à connaître leurs droits en tant que détenus, et ils devaient faire eux-mêmes ce manuel-là qui serait distribué dans tous les centres. Il y a beaucoup de projets mais qui sont arrêtés là pour le moment. On attend que ça se calme pour reprendre tout ça. Moi, j'adore aller à la rencontre de ces jeunes, faire des ateliers, dessiner avec eux, les faire dessiner, débattre, discuter, dialoguer. Ils ont une grande maturité, ces jeunes-là, et voilà, ils m'épatent par cette maturité et par cette cohérence.
Ah oui, donc au-delà des œuvres que vous propagez aux quatre coins de la planète, au quotidien en fait, tout simplement, autour de vous, vous propagez aussi cet esprit de... quel esprit? Puisque vous redonnez confiance aux personnes, vous leur redonnez de l'espoir, vous les éduquez sur leurs droits aussi, cet esprit, j'allais dire, d'émancipation en quelque sorte, de l'individu. C'est quoi votre message? Vous avez message quand même dans votre manière de faire, de dessiner et d'agir au quotidien.
Moi, mon but, c'est je travaille depuis plusieurs années avec l'association Cartooning for Peace qui a été créée par Cantu et Kofi Annan. Et nous, notre but, c'est de déconstruire l'intolérance. Voilà. Donc, aller à la rencontre des jeunes, mais moins jeunes, mais d'aller à leur rencontre, de faire des ateliers. J'en ai fait de partout. J'en ai fait en Tunisie, mais j'en ai fait en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Éthiopie. D'aller à la rencontre des jeunes et discuter de questions qui peuvent être gênantes, des questions d'intolérance surtout, la haine aussi, et d'essayer de comprendre et d'argumenter, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on est dans le like, le dislike, dans des réactions un peu, voilà. Les gens disent oui, ben, quand ils aiment pas un dessin, ils disent voilà, c'est de la merde, et ils argumentent pas du tout. Moi, j'aimerais bien comprendre quand on m'attaque, quoi. Moi, une critique qui est constructive et qui est argumentée, je l'écoute et ça me permet d'évoluer. Donc, là, on essaie de discuter avec ces jeunes-là et surtout de s'entendre. Moi, mon but, c'est ça, parce que je commence pas directement. Je suis pas en train de faire un atelier de dessin avec ces jeunes-là. Je commence surtout à discuter, et il nous faut aiguiser notre esprit critique, et puis il faut développer notre culture pour pouvoir argumenter nos prises de position, et puis surtout écouter les autres. Écouter, comprendre les autres. Et on n'est pas forcé de changer d'avis ou d'être d'accord avec celui qui... Enfin, moi, je leur demande pas d'adhérer complètement à tout ce que je dis, mais au moins de m'écouter. Et moi, je les écoute. Et on est... Et surtout, ne pas avoir cette pensée unique. La dictature, c'est la pensée unique, et imposer aux autres de penser pareil. Le but, maintenant, c'est d'être tous différents et d'accepter la différence des autres. Donc, c'est vraiment un message de tolérance que j'essaie de diffuser un maximum. Le droit à la différence, mais aussi la tolérance.
Très bien. je vais vous reposer la question que je vous avais posée en début d'interview, parce que je vous avais troublé, vous ne saviez pas que c'était enregistré. est-ce que vous pourriez nous parler de vos actualités, de vos projets à venir ?
Bah, actuellement, bon, il y a donc ce livre 10 ans et toujours vivant qui vient sortir, et voilà, je suis très heureuse de l'accueil qui en est fait, hein. Je suis focalisée sur ça, mais j'espère faire peut-être en 2021. Là, c'est très difficile de faire des projets vu la situation actuelle, mais mon souhait, c'est de réaliser une expo où participeraient toutes les personnes avec qui j'ai travaillé pendant ces 10 ans, des artistes et autres. Et puis j'espère continuer à faire des ateliers auprès des jeunes, d'aller à leur rencontre, de dessiner, et voilà quoi. C'est mon souhait, c'est vraiment d'aller de retrouver les gens et de retrouver le contact aussi, parce que même dans le cadre de mes cours avec mes élèves, moi, si c'est un atelier, j'aime être au milieu de mes élèves et discuter avec eux, et là, bon, il n'y a plus de contact, on voit plus les visages, c'est super difficile pour un artiste de travailler dans ces conditions. Donc oui, j'ai plein de projets, mais j'attends de voir la suite. Bon. J'espère juste que les gens vont se responsabiliser et arrêter d'être égoïste, parce que c'est assez navrant, quoi, de voir que voilà, on sous-estime ce virus-là et beaucoup de gens meurent à cause de ça. Et il faut pas, enfin, j'en ai marre des gens qui parlent que des chiffres, qui sortent des chiffres et des statistiques. Il s'agit de vies humaines. On a oublié ça, quoi. On nous débite des chiffres, tant de morts, c'est affreux. Et il va falloir se responsabiliser vraiment. Et bon, j'espère qu'on va en sortir très vite. Parce qu'on n'avait pas besoin de ce virus dans notre pays. Il a mis à nu vraiment tous les problèmes, nos hôpitaux qui sont complètement délabrés, nos structures sanitaires, le personnel médical qui est tout seul. Ça a mis à nu, ce virus, c'est un révélateur de tous les problèmes qui existent dans notre pays. Et j'espère vraiment qu'on va s'en sortir, parce que là, actuellement, aujourd'hui, c'est super compliqué.
Il y a beaucoup de Tunisiens en France. Un message pour eux ? Pour elle et eux ?
Un message, qu'est-ce que je pourrais dire ?
Un petit coucou, je sais pas.
Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et voilà.
En quelque sorte, c'est une force que vous avez, vous, d'être franco-tunisienne. Est-ce que c'est de là que vous vient cet esprit de déconstruction de l'intolérance, c'est-à-dire que vous pouvez regarder la France du point de vue de la Tunisie ou regarder la Tunisie du point de vue de la France. Vous avez un double regard, en fait. Voilà. Et puis même d'ailleurs un triple regard, puisque vous avez voyagé. Alors je ne sais plus combien vous avez de regards, tellement vous avez voyagé, mais vous êtes capable de changer votre regard sur les choses en fonction de l'espace dans lequel vous vous situez, en fait. C'est une grande richesse humaine, ça, quand même, non ?
Ah, pour moi, je le vois comme une très grande richesse, hein, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de la culture, la littérature, à tous les niveaux, au niveau de l'histoire. Je me sens très méditerranéenne, hein. J'ai comme beaucoup de Tunisiens, on est mixte, et non, cette culture, cette double culture, moi je la vois comme une seule parce que je suis un individu, mais c'est une richesse, et j'essaie de me nourrir de tout ce qui est beau dans nos deux cultures, et au niveau gastronomique aussi, c'est très riche, et je suis très contente d'avoir ces deux cultures là. Alors que beaucoup veulent nous réduire à notre identité, à une langue ou à une culture ou à un passeport. Moi, je suis citoyenne du cosmos. Donc, mon regard, il est juste, voilà, moi, ça va faire très bizarre et gnangnan ce que je vais dire, parce que les gens sont devenus un peu cyniques, mais moi, pour moi, voilà, les humains sont tous mes frères et mes sœurs, et le plus important aujourd'hui, la crise majeure, elle est environnementale, elle est écologique. Il faudrait que tous qu'on se focalise sur ça, parce que c'est très grave ce qui se passe, et qu'on arrête avec des détails et des débats sur l'identité, ça sert à rien du tout. Il faudrait éliminer carrément le concept d'identité, et qu'on retrouve nos vraies valeurs et de fraternité. Voilà.
Eh ben non, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas nier que de dire cela. Au contraire, c'est preuve d'une grande sensibilité, d'une grande intelligence humaine, en fait. Voilà. S'il y avait une intelligence humaine, ça serait celle du cœur. Et de la fraternité, de ces valeurs-là qui nous unissent. Cette émission est faite pour la radio, pour Radio Campus Orléans. Est-ce que vous auriez une musique, une chanson à nous proposer, à écouter ?
Oula, c'est la colle, là.
Oh, quelque chose de simple, hein. Même un tube qui passe à la radio, je ne sais pas. Ou quelque chose d'un peu plus confidentiel que vous aimez beaucoup.
Ah, j'écoute beaucoup de choses, donc je ne sais pas. Du Otis Redding.
D'accord.
Try a little tenderness.
Et ben voilà, c'est l'occasion, très bien. Et ben on la mettra à la fin de l'émission. Et vous voulez la dédicacer à quelqu'un ? Enfin, est-ce que vous voulez faire une dédicace à nos auditeurs, auditrices ?
Non, à tout le monde. À tout le monde. J'ai dit cette chanson à tout le monde. Elle est très belle. Et voilà.
Et bien, bonne continuation.
Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
She may be weary, them young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess, yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it.
www.bondibloccentre.fr
Bondi Bloc Café.
Bondi Bloc Centre.
Bondi Bloc Café.